Notre prochain invité porte plusieurs chapeaux. On le connaît principalement comme chef de police de Québec, mais il est également président de l'Association des directeurs de police du Québec. Robert Pigeon est avec nous en studio. Bonjour, Monsieur Pigeon.
Bonjour.
Dans la presse cette semaine, vous avez lancé une idée, celle de créer un corps de police indépendant spécialisé dans la lutte contre le crime organisé au Québec. Pouvez-vous élaborer un petit peu sur cette proposition-là?
Bien, dans les faits, c'est des réflexions qui ont lieu avec toutes les parties prenantes en matière de sécurité publique, non seulement sur le crime organisé, mais sur l'organisation de la police au Québec au grand complet. Que ce soit en enquête spécialisée ou en gendarmerie ou à l'utilisation des technologies dans les services de police, mais tout ça doit être réfléchi et revu sous une autre perspective maintenant.
Et à l'heure actuelle, dans quel type de circonstances est-ce que vous allez mettre vos agents en commun là, d'un service de police à l'autre?
Ben là, on est seulement qu'au début de la réflexion. Donc, le gouvernement nous a proposé de mettre sur la table l'ensemble des idées à être réfléchies plus tard. Donc, c'est le dépôt d'un livre vert qui est en fait une table des matières, un état de situation. Un livre vert, c'est ça. Et par la suite, le gouvernement pourra voir à l'intérieur des idées qu'il aura reçues, à la fois de la police, mais des autres partenaires, parce qu'il y a plusieurs personnes intéressées. L'Union des municipalités, il y a des syndicats qui sont intéressés, le secteur privé. Donc, il y a plusieurs parties prenantes qui ont un mot à dire en sécurité publique. Et c'est peut-être le temps maintenant ou l'opportunité à saisir pour revoir tout ça.
Comme citoyen et comme observateur, quand j'entends un nouveau corps de police pour peu importe la situation qui a réglé, ça m'inquiète un petit peu parce qu'à ma connaissance, la dernière fois qu'on a créé un corps de police pour un de cas spécifique, ça a donné l'UPAC. Puis comme observateur, pas tellement satisfait du travail de l'UPAC. Puis j'ai le feeling que les gens n'ont pas une grande, grande confiance à l'égard de l'UPAC en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour, entre guillemets, pas répéter les erreurs qui ont peut-être été commises quand on a formé l'UPAC?
D'abord, on n'est pas encore en train de dire qu'on va former un nouveau corps de police. On est en train de réfléchir sur la mise en commun de certaines choses. Bon, tout est ouvert. Tout va être mis sur la table. Donc, on n'est vraiment pas à l'étape de dire on efface, on jette tout ce qu'on a fait et on recommence. D'ailleurs, on fait des choses très bien au Québec puisque la criminalité ne cesse de diminuer. Donc, ça va bien de ce côté-là. Les services de police font une bonne job. Cependant, même si la criminalité ne cesse de diminuer, notre job n'a pas arrêté d'augmenter parce que tout a changé autour de nous. Les technologies sont présentes. La police qu'on faisait il y a 30 ans, c'est plus du tout la même chose qu'on fait maintenant. Là.
Avez-vous l'impression, justement, que les criminels innovent constamment dans leur façon d'opérer? Là, on parle de sécurité informatique ces temps-ci avec le code des jardins. Il y a le dark web, il y a la crypto-monnaie, ces trucs-là. Est-ce que vous êtes en mesure de les suivre là-dedans, puis d'être tout le temps à l'affût des dernières tendances?
Le crime organisé, notamment, mais la criminalité en général, ont toujours eu un très bon sens de la créativité pour rester en dessous du radar, disons ça comme ça. Donc, ils sont toujours à la recherche de moyens pour ne pas être détectés par la police pour faire leurs activités criminelles en toute impunité. Donc, les organisations policières, on est en constante réflexion. On partage entre nous les meilleures pratiques pour tenter justement d'être au-devant d'eux. Mais il y a un prix à la technologie. Et les organisations policières font face aussi à un défi de maintenir cette cadence-là.
La mafia se cherche un chef actuellement. Les motards semblent un peu plus discrets qu'ils l'ont déjà été. À votre avis, comment se portent les organisations criminelles au Québec actuellement?
Ben les organisations criminelles, bon, tant que de la demande, il y a de l'offre, donc le marché est là, le marché existe. Sont beaucoup plus dans un monde de partenariat présentement, les organisations criminelles. Donc on a vu la guerre des motards au début des années 90. Oui. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a changé le visage du crime organisé. Les efforts policiers de l'époque ont donné de très grands résultats. On était dans des escouades régionales mixtes, des unités qu'on appelait carcajou à l'époque. Ça a donné des fruits, ça a apporté du recours au crime organisé. Mais le crime organisé, c'est toujours un constant changement et ça se reconstruit d'une autre façon. Ça se refait des racines nouvelles ailleurs. Et la police, mais c'est à nous de voir à veiller au phénomène.
Quand on prend la mafia, par exemple, on a l'impression que c'est un phénomène qui est davantage montréalais. Si on prend les motards, bon, c'est un peu partout dans la province. À Québec, est-ce que c'est les gangs de rue, par exemple, qui sont votre principale préoccupation?
Non. À Québec, on n'a pas de phénomène de gangs de rue, proprement dit, présentement. On a des jeunes comme de différents petits crimes, comme dans n'importe quelle ville, mais on n'a pas ce phénomène de gang de rue. À Québec, on est plus dans la criminalité traditionnelle québécoise.
C'est-à-dire?
Donc, des vendeurs de drogue, des gens locaux. Donc, on n'a pas une souche internationale à part les Hells Angels, bien sûr, qui ont une bonne prise de contrôle sur l'ensemble du territoire québécois.
Une des idées que j'apprécie dans votre idée de mettre en commun l'expertise, c'est celle de sortir du cadre policier. Il y a d'autres organismes qui pourraient s'impliquer dans une nouvelle nouvelle entité de lutte au crime organisé. Vous nommiez, par exemple, Revenu Québec, l'Autorité des marchés financiers. En quoi ce serait bénéfique, selon vous?
Ben,
vous
savez, moi, j'ai eu la chance dans ma carrière de bâtir une unité d'enquête de toutes pièces, sur mesure, lorsque j'étais le responsable des enquêtes à la Commission Charbonneau. Donc, j'ai vu la valeur de pouvoir aller chercher des expertises. J'avais été chercher comme enquêteur des économistes, comptables, avocats, notaires, criminologues. Je les ai tous mis ensemble avec des enquêteurs policiers. Mm-hmm. Ça a donné de très bons résultats. Donc, ça, c'est un filon que je pense qu'il faut toujours avoir l'esprit lorsqu'on fait ce genre de choses-là.
C'est pour vous sortir un peu de vos schèmes de pensée habituels. Les policiers pensent un peu comme des policiers, les comptables vont penser comme des comptables, ça va vous permettre d'établir des ponts?
Oui, il y a ça, mais la criminalité change aussi. Il y a des gens qui sont hautement scolarisés, hautement des professions qui sont des facilitateurs au crime organisé. Donc, pour faire face à ces phénomènes-là, je pense que c'est important d'avoir ça. Mais à votre question du départ, oui, Revenu Québec, il y a un paquet d'organismes chargés de l'application d'une loi au Québec, mm-hmm. qui font des enquêtes de leur côté. Il y a parfois certaines barrières juridiques qui leur empêchent de se transmettre des informations. Okay. Et il y a des barrières aussi entre les enquêtes criminelles à ne pas franchir et les enquêtes administratives. On a une autorité des marchés financiers, une autorité des marchés publics maintenant, un bureau d'inspecteur général à la Ville de Montréal. On a un paquet d'autres, on pourrait en nommer encore plusieurs. Je pense qu'on doit aussi inclure ça dans la réflexion pour se demander comment ces gens-là peuvent collaborer mieux à la protection de l'État, à la protection des revenus de l'État. Encore une fois, c'est les citoyens qui gagnent en bout de ligne.
Puis le fait que l'information ne circule pas toujours entre ces différents organismes-là, est-ce que c'est une source de frustration pour vous comme policier?
C'est pas une source de frustration parce qu'on finit toujours par, avec différents moyens légaux, obtenir l'information, mais c'est de la rapidité à laquelle on peut accéder à certaines informations. Je pense qu'on pourrait se rendre ça un peu plus simple.
Paul-Raphaël parlait de l'UPAC tantôt. Il y a la SPVM qui est accusé de discrimination systémique, de racisme cette semaine. Il y a le DG de la Sûreté du Québec qui est suspendu. On ne sait pas trop pourquoi. Pensez-vous justement que la police va réussir à regagner la confiance des citoyens là, à court ou moyen terme?
Bien, c'est intéressant la manière dont vous apportez la question parce que si vous regardez les sondages de satisfaction concernant les services policiers, ils sont très élevés. Les gens apprécient les services policiers. Et ça, c'est la grandeur du Québec lorsque je parle avec mes collègues directeurs de police ailleurs dans d'autres régions. Ça veut dire qu'on a une quinzaine de mille policiers sur le territoire québécois qui se déploient 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, mm-hmm. qui font de maudites bonnes jobs. Ça, d'abord, c'est ça. Par contre, on a des hauts dirigeants qui, présentement, sont un petit peu sur la sellette, qui amènent une perception négative des autorités policières par rapport à la population et face aux médias. Donc, c'est quelque chose qu'il faut se préoccuper, mais je pense qu'on a une opportunité devant nous maintenant pour s'améliorer.
Ben, quand je me fie au message qu'on reçoit, puis quand on aborde ces différents sujets-là dans l'émission, les gens sont très réactifs. Puis vous avez raison, les gens ont confiance en les agents de police. Quand ils appellent au 911 puis que les gens viennent les aider, ils ont 100% confiance aux gens qui font le travail sur le terrain. Mais quand on voit qu'il y a plusieurs accusations qui sont retirées ou qui tombent, puis là, des fois, c'est de la faute au DPCP, des fois, c'est de la faute aux enquêteurs qui auraient fait le travail, qui auraient bâclé certains aspects. Le nouveau commissaire de l'UPAC a dit qu'effectivement, il y avait de la chicane à l'interne. C'est quand on regarde les organisations que là, la confiance diminue un peu. On n'est pas à un moment de l'histoire où la confiance est la plus grande à l'histoire des institutions, là.
Ben, d'abord, moi, je partage le même point de vue que vous. C'est catastrophique lorsque le lien de confiance entre une communauté et la police se désagrège. Si vous avez voyagé ailleurs dans le monde, vous avez vu où il n'existe aucune confiance entre la police et une population, c'est extrêmement grave. Mm-hmm. On est loin d'être là au Québec. Par contre, je suis d'accord avec vous qu'il y a une perception qui est pas... c'est pas inventé, cette affaire-là. Il y a quand même des gens qui sont sous la sellette présentement. Oui, c'est préoccupant, mais il reste quand même qu'on est capable de prendre ces phénomènes-là en charge. C'est en train de se résorber. Il y a plusieurs actions qui ont été posées jusqu'à maintenant.
Et lesquelles?
Je pense qu'on les envoie. Ben, le nouveau commissaire Lupac, je pense que c'est positif.
Ouais.
On regarde le SPVM, là où il y en est présentement, on est parti complètement vers l'avenir. La Sûreté du Québec, c'est une grande institution, c'est une organisation qui a 150 ans d'histoire, que c'est lettre de noblesse. Bon, malgré un petit passage difficile présentement, il reste quand même que les 5000 policiers avec les 5000 avec les employés civils, c'est des gens extrêmement compétents qui font un travail absolument incroyable.
Puis ça doit être les premiers, les policiers, les enquêteurs, puis même les procureurs qui travaillent au DPCP. Ça doit être les premiers à se dire, ciboulot, on travaille fort pour arrêter des bandits, puis de regarder les bandits finalement, ou les présumés bandits, qui s'en vont, qui sortent du palais de justice, puis que les accusations d'hommes, ça donne les premiers à être fâchés de ça.
Ben, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que ça arrive. Quand on a commencé dans la police, on appelait l'arrest Tinchcom, c'était sur la divulgation de la preuve, c'était une catastrophe, cette affaire-là, ça a obligé les policiers à divulguer tout ce qu'ils avaient en main. Aujourd'hui, on en divulgue tellement que ça surveille contre nous parce qu'on oublie une petite chose, ou lorsque ça devient ingérable, la tonne de preuves que les tribunaux ont administrées à gérer. Donc, ça amène toutes sortes de défis, ça amène des procédures qui sont beaucoup plus longues, et ça amène aussi des nouvelles décisions des tribunaux comme Jordan qui vient baliser la durée des procédures.
Diriez-vous que la source de cette situation-là qu'on vit en ce moment est plutôt d'ordre, on va dire, d'ordre judiciaire ou plutôt en fonction des méthodes d'enquête?
Je pense que c'est une combinaison des deux. Okay. On est tous liés ensemble. Nous, on recueille les faits sur le terrain, on essaie de bâtir un dossier qui est le plus solide, mais notre dossier est jamais plus fort que les témoins qu'on a. Ça, mm-hmm. faut faire avec les témoins qu'on a. Mm-hmm. Mais les gens qui portent plainte à la police s'attendent que ça soit pris en charge, s'attendent qu'on s'occupe de leur dossier, ils s'attendent qu'on recueille le maximum de ce qui est disponible comme élément de preuve et qu'on le soumette éventuellement au DPCP. C'est à lui qui revient la décision de porter des accusations ou pas. Mais ensuite, on connaît nos règles judiciaires. C'est au juge à décider par la suite l'issue des procédures.
Petite question locale en terminant, M. Pigeon. Vous en êtes où dans le projet de nouvelle centrale de police?
Personnellement, je pense qu'on n'a jamais été aussi près que maintenant d'avoir une nouvelle centrale. Je peux comprendre les policiers, les membres du SPVQ qui en entendent parler depuis des années. Pour eux, c'est encore une légende urbaine. Mais je peux vous dire que les discussions que j'ai avec les autorités municipales, ils sont aidants, ils font une maudite bonne job présentement, puis on se dirige vraisemblablement vers quelque chose de complètement nouveau, de moderne, et on aura certainement un équipement à la hauteur de nos attentes.
Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un budget et un échéancier dans les 6 prochains mois, par exemple?
Ben, nous, on a fait l'assemblage de tous les besoins pour une centrale de police moderne. Mon collègue du service de la gestion des immeubles est en train de regarder ça et de calculer ça. Il va bon train. Je peux vous dire qu'il travaille très, très fort avec ses équipes. Les architectes de la ville sont compétents. Ils sont en train de nous produire quelque chose qui, j'espère, va être annoncé moi aussi rapidement.
Merci beaucoup d'être venu nous voir en studio aujourd'hui, M. Pigeon.
Ça m'a fait plaisir.
Très apprécié. Robert Pigeon, il est chef de police de Québec, ainsi que président de l'Association des directeurs de police de Québec. Au retour de la pause, on revient sur les derniers développements dans l'affaire Desjardins avec Vincent Larouche de la Presse et l'expert en cybercriminalité, Paul Laurier.